Allô?
Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité.
Ah ouais, c'est quoi?
Bah en fait, on pourrait parler de...
La culture du viol.
Oh meuf, j'ai vu des chiffres qui montrent qu'en France, toutes les 9 minutes, une personne est victime de viol ou de tentative de viol. Et que ça concerne en vrai une femme sur 6 et un homme sur 20. J'ai vu aussi que 90% des violeurs sont des hommes et qu'on estime à 10% le nombre de victimes qui vont jusqu'à porter plainte et seulement 1 à 2% les violeurs qui sont finalement condamnés. En France, en fait, on viole en toute impunité. Enfin bref, je te balance tous les chiffres que j'ai vus d'un coup, mais j'étais là, waouh!
Ouais, mais c'est abusé. Bah, maintenant que t'en parles, moi j'ai lu un livre sur la culture du viol.
Ah ouais, bah moi aussi j'ai vu. Ouais, j'ai entendu parler de ce truc-là et du coup j'ai regardé une définition. Là, moi, la définition que j'ai trouvée et que j'ai trouvée bien, c'est que c'est un ensemble de croyances et de comportements qui visent à minimiser, banaliser, excuser, justifier, voire encourager les violences sexuistes et sexuelles du groupe social des hommes envers celui des femmes.
Alors, moi, je préfère la définition de Valérie Ray Robert, du coup, celle qui a écrit le livre Une culture du viol à la française.
Ouais.
Parce qu'elle exclut pas les victimes hommes. Et du coup, elle dit que la culture du viol, c'est un ensemble de préjugés et de croyances préjudiciables aux victimes. Elle résulte à décrédibiliser la victime et placer le coupable au rang de victime. C'est la manière dont une société se représente, construit des mythes et des croyances sur le viol, les victimes et les coupables à une époque donnée. Et en fait, on l'appelle culture parce qu'elle imprègne la société et se transmet à travers les générations. Et elle change selon les lieux et évolue avec le temps. Donc c'est comme la culture, c'est dans la culture en fait.
Ah bah c'est clair, elle est partout tout le temps. Elle est en chacun de nous, je pense, dans notre langue, dans notre façon de parler, dans les médias, dans les œuvres artistiques. Enfin, pour moi, vraiment, la notion de culture, ça fait vraiment comme si c'était penser les violences sexuelles comme quelque chose de normé et de normal. Et en fait, c'est ça qui les rend possibles et qui les rend aussi fréquentes, c'est parce qu'elles sont tolérées, voire, franchement, le mot est fort, mais encouragées, quoi.
Mais c'est ça, en fait. Et entretenir la culture du viol, ça signifie participer à un climat où la victime est culpabilisée et le violeur est excusé. C'est pas forcément des choses dont on s'en aperçoit, en fait. Ça entretient l'idée que ce sont les femmes qui se comportent mal, qui se font violer. Et ça permet donc également de contrôler les femmes. Et ça passe par le maintien des rôles de genre traditionnels. On attend des hommes qu'ils soient agressifs, des femmes qu'elles soient inoffensives, qu'ils soient solides et qu'elles soient fragiles. Et donc cela permet de nier le viol d'hommes qui est pourtant qui existe.
Et qui est une réalité, ouais. Non, mais c'est ouais. Ça. On a presque l'impression en fait que le viol c'est quelque chose d'inéluctable en fait. Enfin, en tout cas, moi, je refuse de penser comme ça, parce que ça voudrait dire qu'on peut rien y faire, et que quoi qu'il arrive, on reste dans la peur, en fait. Et puis, il y a une forme de fatalisme qui est assez facile, surtout pour ceux, en fait, qui ont moins de chances de devenir des victimes, quoi. Et Maya Mazoret que je lisais, et qui dit, en fait, très justement, qu'il faut cesser de considérer que le viol, il fait partie de la nature humaine, parce que on n'est pas des animaux, on est éduqués quoi, dans une société qui rend ces agressions possibles. Et à un moment, il faut s'en rendre compte et il faut essayer de lutter contre ça.
Bah, c'est ça. Et en plus, Valérie Robert aussi dit qu'en France, la culture et la tradition sont régulièrement prises à partie pour se défendre des dénonciations. On parlera d'amour à la française, de jeux que seuls les Français connaissent. Par exemple, la défense de DSK qui accusait l'Amérique d'être trop puritaine. Ou la tribune par exemple du Monde sur la liberté d'importuner et voilà et dedans on y confond le sexe et les violences sexuelles, la drague et le harcèlement sous couvert d'aimer l'amour, Paris capitale de l'amour, tu vois.
Bah super, et... si l'amour c'est se faire violer, je passe mon tour, merci.
C'est ça. Et en France du coup elle dit qu'en France il y a ce truc là, c'est pas pire que dans les autres pays, c'est juste que on a cette particularité là de se servir de la tradition et du chauvinisme un peu pour justifier des trucs.
Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il y a plein de choses qui vont encourager la culture du viol, et notamment cette espèce de stéréotype du vrai viol et de la vraie victime, dans le sens où t'as l'impression que la culture du viol, c'est aussi dire que les victimes, elles doivent être toutes les mêmes. C'est des femmes qui sont brisées, qui portent plainte immédiatement, qui se sont débattues. Enfin, tu vois, j'ai écouté une émission de radio belge où Gulia Foyce parlait de son viol, ouais. Et expliquait en gros qu'elle avait eu de la chance. Je mets des guillemets à chance de subir en fait le bon viol. Et le bon viol, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'imaginaire collectif, le mythe du vrai viol, c'est dans un parking, dans une ruelle, c'est violent, donc ça laisse des marques, forcément t'as des traces de coups, c'est de la part d'un inconnu qui est un petit peu vu comme un monstre, tu vois. Il y a toute cette imaginaire. Et bien sûr, la victime, elle se débat de toutes ses forces, elle se laisse donc des marques aussi sur son corps. Et donc c'est bien pratique parce que comme ça, on voit visuellement, on a une preuve visuelle qu'elle s'est fait violer. Et voilà.
Alors qu'en
et...
fait, tout ça, c'est un mythe. Hein.
Bah, c'est ça. Et qu'en fait, le viol est un crime très répandu et que, désolé, mais c'est la majorité des violeurs, c'est des personnes qui nous sont proches.
C'est clair, c'est ton frère, ton ami, ton mec.
Et d'ailleurs, il y a le sociologue Éric Frassin qui dit un truc qui est juste, hein, qui dit que le violeur, ce n'est pas l'autre, il fait partie des nôtres.
Ouais, carrément. Mais ces viols-là, en même temps, tu comprends, ils sont pas authentiques, tu vois. Et en plus, si t'as le malheur de t'être douché juste après, t'as aucune preuve, alors qu'en fait, bah, c'est juste humain de vouloir se laver quand on t'a sali, parce que c'est...
Oui, et puis le fait de pas pouvoir porter plainte. Enfin, moi, je sais que parmi les gens que je connais, les personnes qui ont été violées ont mis des années à se rendre compte qu'elles avaient été violées.
Bah ouais.
Ce qui est fou, c'est que tout le monde condamne le viol. Tu demandes à n'importe qui dans la rue, enfin, tu vois... C'est pour vous, qu'est-ce que vous pensez du viol ? Ah non, mais c'est un crime horrible, c'est le pire chose qu'on puisse faire à une femme. Mais en fait, si tu observes les pratiques de chacun, sans mettre ce mot-là, hein, tu enlèves le mot viol, ou agression sexuelle, ou tout ça, et ben on remarque en fait qu'il est super fréquent de trouver parmi nos proches un potentiel agresseur qui voit souvent pas le problème, en fait.
Ah, mais il y a des études qui ont été faites là-dessus, ouais. Où il voit que les... Il parle à des jeunes hommes sans les braquer en disant, en parlant de viol ou en parlant de... Mais il constate que, pas mal ont eu des rapports sexuels sous la contrainte. Enfin, on fait subir des rapports sexuels sous la contrainte. Sans savoir qu'ils ont violé, en fait. Même eux, tu vois. Genre...
Et en fait, voilà, du coup, ça, c'est ça. Et puis, du coup, il y a ce mythe du vrai viol. Et bah, en fait, bah, moi, j'ai pas chopé une meuf dans une ruelle et je l'ai pas coincée contre un mur et je l'ai pas violée alors qu'elle était. Enfin, tu vois, quand on s'est pas battu pour faire l'amour, tu vois.
Bah, oui,
faire l'amour, c'est pas le mot, bon mot employé. Non. Mais voilà. Non, et du coup, en fait, le mythe du vrai viol et de la vraie victime n'a finalement qu'un seul objectif. Il sert à protéger les violeurs, en fait, de... et même pire, enfin, tu vois, il leur permet de se donner une bonne conscience. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai pas violé. C'est pas ça un viol.
Bah ouais.
On passe de c'est pas bien, ça passe encore à c'est un crime quand c'est un inconnu avec un couteau.
Bah c'est ça, puis elle a pas vraiment dit non, je l'ai pas violé.
Ah ouais, non, mais c'est ça, des excuses comme ça, il y en a des millions, hein, ils les trouvent toutes. Hein.
Et si on revient sur la notion de bonne ou de vraie victime, pour qu'une plainte soit entendue et qu'il y ait des suites, il faut des traces, des preuves.
Bah oui, on va pas la croire sur parole non plus.
Bah c'est ça. Il faut savoir qu'une femme qui est violée, elle se débat pas forcément, parce que le cerveau, il est bien fait, en fait. Quand on est victime d'un choc émotionnel important, il existe l'état de sidération, en fait. C'est une sorte de blocage.
Ouais, c'est ça qui permet de mettre à distance la souffrance. Et t'as ton corps qui se fige. C'est presque comme si, en fait, t'en sortais. Tu contrôles plus rien. Et ça peut... En vrai, ça, c'est un truc. Moi, je pensais que c'était vraiment sur le coup. Que ça durait le temps de l'agression, voire peut-être quelques heures après et tout. Mais en fait, cet état de sidération, il peut durer des jours, voire des mois, en fait. Où ton corps, il se sépare de ce que tu as vécu, et t'as ton psychisme, d'un côté, t'as ça, mais tu n'as pas accès, en fait, à ton viol. Tu sais même pas que... Enfin, tu vois, tu l'as pas conscientisé du tout. Et en fait, c'est pour ça que, bah ouais, des fois, ça prend 10 ans à aller porter plainte.
Bah oui, c'est ça.
Et même pas que pour ça, hein, parce qu'il y a aussi, des fois, c'est compliqué d'aller porter plainte, parce qu'on sait comment on est reçu par la police, et on sait que dans la vraie vie, si t'as pas toutes les preuves, tu vas vite être vu comme...
Ouais. Ouais. Ça, on va en parler de toute façon du truc judiciaire. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de bon comportement ou de comportement type pendant et après un viol non plus. Le fait de ne pas avoir parlé tout de suite, ça peut être la peur de ne pas être cru, de ne pas être soutenu, qui est largement justifié, on le verra. Ça peut être le refus de se considérer comme une victime, les menaces, l'intimidation du violeur, une emprise, parce qu'il y a beaucoup de ça quand même.
Ah bah oui.
Et après un viol, on peut être plus nerveux, ne pas changer son comportement. On peut apparaître indifférente face à la violence subie.
Oui, c'est enfin, ça, c'est qu'il faut se dire aussi qu'il y a des femmes qui sont violées et à qui ça ne fait ni chaud ni froid. Qui peuvent conscientiser ça et se dire, c'est la vie, enfin, voilà, qui vont pas s'arrêter là-dessus. Et d'autres pour qui ça va être un traumatisme d'une vie. Il faut arrêter de vouloir cataloguer selon le vécu de chacun parce qu'on est toutes différentes et différents et que chacun a sa façon de gérer un traumatisme, en fait.
Et la sidération, elle est souvent remise en question. Parce qu'elle m'a voulu, en fait. Alors que pourtant, en plus, dans la loi, il n'y a pas besoin d'une résistance physique pour être considérée comme un viol.
Enfin bref, tu vois, la représentation que l'on a du viol, elle est finalement très éloignée de la réalité. Et c'est, moi, je pense que ça participe activement à la culture du viol parce qu'il est très condamné socialement. Mais quand il s'agit de condamner son pote ou un super réalisateur, tout de suite, on ne reconnaît plus le viol, en fait.
Bah, c'est ça. Et la culture... C'est ça. Et en plus, la culture du viol, elle permet de mettre à distance le violeur, en fait. Le violeur, c'est l'autre. Et elle stéréotype aussi le coupable. Le mythe du coupable racialisé, par exemple, t'as vu les migrants qui auraient violé à Cologne. En fait, l'histoire, elle a été montée en épingle par les médias. Ouais. Mais en fait, il y avait, je crois, c'était pas des migrants, ou alors il y en avait un, mais en fait, c'était complètement con. Tariq Ramadan, ou comment faire référence à l'islam alors que ça avait rien à voir. Par exemple, le New York Times avait titré avant modification, parce qu'après ils se sont un peu repris, mais ils avaient titré quand même serait-ce le Weinstein de l'islam. Donc ouais. Ça, c'est, enfin non quoi.
En fait, on essaie de créer l'idée que l'homme noir est plus apte à violer quoi.
Bah c'est ça, et que le viol de femmes blanches par des hommes noirs, ils sont davantage décrits dans les médias. Les femmes africaines-américaines se refusent encore plus à porter plainte, du coup, parce que l'immense majorité des viols aux États-Unis, en fait, ils sont pas interraciaux. Et donc, porter plainte, ça va alimenter les préjugés néfastes sur la sexualité des hommes noirs. Et donc, les hommes noirs, c'est leur père, leur frère. Et en plus, on sait que les hommes noirs aux États-Unis prennent 20% plus que les hommes blancs dans la même situation.
Des peines de prison, tu veux dire ?
Ouais.
Ok.
Les peines sont plus lourdes pour un homme noir que pour un homme blanc.
Ouais, puis en fait, si cette cause pouvait éviter de nous desservir et servir les idées d'extrême droite, je m'en passerais en fait.
Bah c'est ça, puis alors, croire que seuls les jeunes de banlieue ou que les hommes riches ou puissants violent, en fait c'est juste une idée pour toujours ramener le violeur à un ailleurs, à l'autre. Et
encore, quand t'es un homme riche et puissant, t'as le droit de violer quand même. CF, ouais. Notre Polanski... Et
ah non, mais
notre
carrément.
Cher ministre de l'Intérieur, quoi. Je veux dire, t'es riche carrément, et puissante, tu peux violer.
Mais c'est pour ça qu'on... Mais c'est l'idée de se dire, non, mais il n'y a que les jeunes de banlieue, ou alors c'est que les hommes riches qui violent parce qu'ils peuvent, tu vois.
Ouais, c'est
en fait, non, tout le monde viole. Enfin, c'est dans toutes les classes sociales, ça existe partout. Et par exemple, l'intense médiatisation de l'affaire Weinstein, ça a fait... ils ont fait comme si son procédé, c'était exceptionnel et réservé aux plus puissants. Mais en fait, non, dans une étude sur des jeunes que je te parlais tout à l'heure, il disait que parmi ceux ayant commis des viols, les trois quarts étaient déjà planifiés, et donc ils étaient prémédités, et tous les violeurs s'assurent, à leur échelle bien sûr, et par différents moyens, parce qu'on n'a pas tous les moyens de Weinstein, heureusement, ils s'assurent d'intimider, d'isoler la victime pour se protéger en fait. Donc ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font.
Ah oui, c'est clair. Et en fait, il y a des choses, j'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte, c'est que quand tu arrives en soirée avec dans l'idée de faire boire une meuf pour coucher avec elle, et ben en fait, ta façon de penser, c'est une pensée de violeur.
Totalement.
Et le truc, c'est que ça, c'est en fait, si tu regardes vraiment dans tes potes, c'est hyper courant.
Ouais.
C'est tout le temps, c'est... Ouais, vraiment, c'est trop souvent, en fait. Et puis moi, je sais pas, il y a aussi cette culture du viol qui permet aussi de... Enfin, on blâme la victime. T'as l'impression qu'en fait, genre, quoi qu'il arrive, ça sera de la faute de la personne qui a été violée.
Oui.
Et ça, bien sûr, le blâme de la victime, c'est l'activité préférée de tout mascu qui se respecte. Tu vois, c'est ces mecs qui sont souvent bien plus choqués par une femme à la vie sexuelle débridée que par des violeurs, en fait.
Ouais.
Et débridée, je mets des guillemets. Hein,
ouais,
à dire
oui,
la vie sexuelle qu'on a envie d'avoir. Mais voilà, on se demande parfois pourquoi les victimes, elles portent pas plus plainte. Bah, je rappelle qu'en fait, seulement 10% des victimes féminines portent plainte, et encore moins du côté des hommes, parce que on remet systématiquement leurs paroles en question. C'est connu, les femmes sont toutes d'horribles menteuses qui n'ont que pour but de ruiner la vie des hommes. Hein, on voit d'ailleurs, retour de Polanski d'Armanin, j'en ai gros contre eux en fait, hein, donc ça va peut-être revenir souvent. Et leur vie ruinée par des accusations. Là, je sais pas qui a la vie la plus ruinée entre la personne qui a été violée par Darmanin et Darmanin lui-même, tu vois.
C'est clair. Et du coup, le traitement judiciaire, il est aussi extrêmement problématique parce que, en fait, par exemple, déjà, le viol, c'est un crime. Il doit être jugé aux assises. Et pourtant, il est souvent, très, très souvent, trop souvent, renvoyé en correctionnel, donc comme un délit. Et en fait, ça a carrément un nom, c'est la correctionnalisation. Et en fait, elle est quasi systématique. Et ce, pour différentes raisons majeures. Bon, déjà, c'est, je pense qu'il y a pas mal... de vise économique de désemplir les assises.
Ah, moi,
mais c'est aussi.
Ce que je trouve fou, c'est que l'argument pour ça, ils te disent protéger la victime.
Ah ouais, non, mais il y a celui-là, où c'est protéger la victime parce qu'en fait, c'est un jury populaire. Donc, pour eux, ça pourrait jouer en sa faveur. Genre, les gens de la justice n'ont pas les mêmes idées que... Enfin, tu sais, ils sont au-dessus de l'opinion publique. Et du coup, si, par exemple, c'est si elle était alcoolisée ou des choses comme ça. Alors que souvent, les peines aux assises sont plus lourdes et qu'en plus, l'alcool est une circonstance aggravante pour le violeur dans la loi. Du coup, c'est quand même dingue. Mais ça peut être aussi... On correctionnalise aussi pour éviter des peines lourdes à l'auteur. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Bah souvent, c'est pour les très jeunes. Parce que faudrait pas leur mettre un casier et ruiner leur vie.
Ouais, c'est vrai. Là,
moi, je suis là, d'accord. Mais très bien. Donc moi, ma vie, on s'en bat un peu les couilles. Par contre, la sienne, qui lui a fait quelque chose de grave, c'est important.
Ça. Puis elle est aussi... souvent faite pour, par exemple, le viol digital ou les autres pénétrations, genre la fellation. Ou
c'est quoi un viol comme digital
ça. Avec les doigts.
Ah, pardon, digital, ok.
Ouais, oui, et cet acte, du coup, le fait de correctionnaliser, ça dénature totalement le viol, mais en plus, ça hiérarchise ceux qui seraient plus graves, entre énormes guillemets.
Non, mais c'est ça, et puis en fait, le truc, c'est que si on le considère comme un crime, c'est un crime. Enfin, tu vois, il y a pas de. Enfin, non, je vois rarement des meurtres qui sont correctionnalisés.
Ouais.
Quand tu tues quelqu'un, tu passes pas en correctionnel. Et quand tu violes quelqu'un, tu passes pas en correctionnel. C'est comme ça.
Mais c'est ça. Et même souvent aussi, c'est parce qu'il y a une remise en doute du consentement. Genre, ouais, mais alors, est-ce qu'elle voulait vraiment pas ?
Ah oui.
Par exemple, avec le viol conjugal.
Ah bah alors, ça, avant que ça soit de toute façon pris en compte, j'ai envie de te dire, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Parce que là, on arrive sur un truc.
Et les plaintes, du coup, au niveau judiciaire, sont aussi souvent classées sans suite parce que pas assez d'éléments ou aussi parce que y a plusieurs facteurs où c'est pas pris en compte, par exemple l'alcool, les problèmes psychologiques, si la victime a des problèmes psychologiques, si le récit est incohérent, alors que bon, quand tu as vécu un traumatisme, c'est pas là où tu fais un truc hyper carré, précis, tu vois.
En plus, moi, ce qui me ponce, c'est que pourquoi est-ce que sur ce truc en particulier qui est le viol, est-ce qu'on remet tout le temps les paroles des gens en question, en fait? Pourquoi à ce moment-là, il y a cette espèce de truc qui... Non, pas possible. Non, ah non, c'est un viol. Non, bah non, pas possible. T'es la quoi?
Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des plaintes qui sont retirées à cause de la pression de la police, parce qu'elles les mettent en doute, parce que sous couvert de « faut vérifier quand même, parce qu'on va quand même pas faire une affaire pour ça », bah si, en fait, parce que pour n'importe quelle chose, tu le fais. Et donc, c'est comment tu étais habillée, est-ce que tu as eu un orgasme, qui n'ont rien à faire dans un dépôt de plainte pour viol.
Oui, c'est
mais
clair.
Vraiment, en fait, à aucun moment tu parles des vêtements de la personne. Et au niveau judiciaire, il y a vraiment une sous-représentation des auteurs appartenant au milieu aisé, qui pourtant, alors que pourtant on l'a dit, il y a des auteurs de viol dans
tous les milieux sociaux.
Et en fait, c'est juste parce que les aisés, ils échappent totalement à la police parce qu'ils règlent leurs affaires entre eux, par exemple, ou alors qu'ils sont protégés.
Ouais, du coup, en fait, tous ces problèmes judiciaires, ils s'expliquent aussi parce que la culture du viol touche toute la société. Donc, elle influence aussi la police, la justice, qui sont en fait aussi des citoyens lambda.
Ah, mais totalement. Et c'est ça qui leur fait dire des conneries quand ils reçoivent quelqu'un qui dépose plainte et qui leur fait avoir des doutes quand la personne elle était alcoolisée ou elle avait des problèmes. Enfin, tu vois, c'est... Et donc on classe et on ne prend pas la plainte plus facilement parce que la victime était ivre, avait déjà fait du sexe avec l'accusé, a eu une maladie mentale, a trop tardé pour porter plainte, puisqu'ils sont, comme tu as dit, ils sont aussi touchés par les stéréotypes. Et on appelle ça d'ailleurs les stéréotypes judiciaires, et c'est le fait d'attribuer à quelqu'un des caractéristiques du seul fait de son apparence à un groupe social, tu vois. Et du coup on appelle ça les stéréotypes judiciaires, donc c'est le seul fait d'attribuer à quelqu'un... des caractéristiques du fait de son apparence, à un groupe, son appartenance à un groupe social.
Oui, c'est ça. Et puis la culture du viol, elle inclut un bon comportement d'une victime pendant et après le viol. Et si c'est pas le cas, elle ne peut pas être crue au tribunal. Si elle montre une sexualité débridée après, si elle semble être excitée pendant, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Alors qu'en vrai, c'est des non-sujets, quoi. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir été violée. Tu peux avoir une vie sexuelle très très. Très très, hein, très très active, active. Merci. Et te faire violer parce que cette fois-là, t'avais pas envie. Putain, enfin, t'as le droit aussi de choisir avec qui tu baisses. C'est pas parce que tu couches avec tout le monde,
heureux.
Avec beaucoup de mecs ou beaucoup de filles, que tu couches avec n'importe qui non plus. Tu vois, tu les choisis un peu, les gens avec qui tu couches. Et c'est ton choix à toi.
Et en fait, et même si tu voulais et qu'en fait non, c'est quand même un viol en fait.
Bah oui, c'est clair.
Et d'ailleurs, une victime qui adhère aux idées reçues sur le viol, elle aura aussi beaucoup moins tendance à se sentir victime et ou à porter plainte, car elle va se sentir responsable. Et en plus, elle sait qu'on ne la croira pas, en fait. Et encore une fois aussi, une idée qui est très dangereuse dans le milieu judiciaire, c'est l'idée selon laquelle les fausses accusations seraient hyper nombreuses et fréquentes, alors ce qui est totalement faux.
Non mais déjà, parce que en fait, juste aller porter plainte, pour de vrai, tu vois, c'est compliqué. Alors aller porter plainte, je vois pas en fait qui fait ça en fait. Et pour quelle raison, sachant que de toute façon, le mec, il est pas condamné. C'est pas comme si, à chaque fois que t'allais porter plainte pour viol, tu touchais 1 million derrière, quoi. Et que t'étais sûr d'être dédommagé. On parle de 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc en fait, quand tu as porté plainte pour de faux pour un viol, à part perdre ton temps, ça sert à rien, quoi.
Oui, ça. Et le truc aussi, du coup, là-dessus, il y avait un schéma qui était fait avec des bonhommes en mode toutes les accusations de viol. Et dans un coin, ceux qui sont ceux où la victime a porté plainte. Et dans un encore petit coin, ceux qui sont condamnés. Et il y avait plus de gens condamnés que de... Ou alors égal, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait très très peu de gens qui étaient accusés, mais que c'était des fausses accusations, tu vois.
Ouais, c'est
vraiment,
clair.
C'était minime. Et en plus, déjà, aussi, parce que, en fait, la vie détruite après une accusation, c'est souvent celle de la victime, dont on analyse tous les actes passés ou futurs pour juger de la véracité de ses propos, tu vois.
Et surtout pour juger de la fausseté de ses propos, parce qu'en fait, s'il y avait vraiment une volonté de prouver le viol, mais moi, je trouve que vraiment, il y avait plutôt une volonté, en fait, de dire, eh ben non, ça, c'était pas un viol.
Ouais.
Et à coup de « elle l'a bien cherché », on se rend compte que leur parole, en fait, elle a peu de valeur. Et que, de toute façon, personne ne les croit. Et qu'alors... Enfin, tu vois, il faut absolument qu'il y ait des preuves, sinon on ne t'est pas cru. Et ce qui est drôle, et là, je vais faire une référence à une vidéo de Marion Seclin, qui a fait une très bonne analogie entre le viol et les cambriolages, car contrairement à un viol, on remet rarement en question un cambriolage. Alors que, bon, fraude à l'assurance, ça se fait, quoi. On sait que ça arrive. Ouais. Et tu vois, vous imaginez, oui, mais tu l'as bien cherché, t'es parti en vacances. Ce serait pas pour ruiner les assurances ? Alors pourquoi est-ce qu'on incrimine systématiquement les personnes victimes de viol ? Ce sont les seules victimes qui sont traitées comme des suspectes.
Ouais.
La seule à qui on sort la fameuse présomption d'innocence, même quand elle n'a plus lieu d'être puisque le violeur a été condamné. C'est F. Polanski encore. Ouais. La présomption d'innocence n'a jamais aussi bien marché que dans les procès pour viol.
Ouais, ça c'est clair.
Une personne qui est accusée de meurtre, qui a tué des enfants, et généralement, on en parle beaucoup moins de la présomption d'innocence. Là, elle est sortie à toutes les sauces. C'est clair. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu leur faute, tu comprends. Les hommes, ils ont des besoins, si elle n'était pas aussi attirante. Ouais, d'accord, merci.
Ah, mais en fait, si la victime correspond au stéréotype de la beauté, c'est la fatalité, tu vois. Elle l'a bien cherché. Et puis, en même temps, elle est trop belle, enfin, tu vois. Mais à quel moment tu dis ça ? Et si elle n'y correspond pas, sa parole, elle est remise en doute. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais Bolsonaro qui disait de son adversaire qu'il ne voudrait même pas la violer. Ah bah... Pardon, mais horrible, je ne peux, tu veux pas me violer, mais vraiment, j'ai pas de chance, quoi.
Mais c'est ça, et puis aussi remettre en question la parole d'une victime qui va pas forcément qui va pas correspondre au canon de beauté. Non, mais t'as vu sa gueule, elle a pas été violée, c'est pas possible. Qui voudrait d'elle, tu vois? Ou alors, l'inverse aussi, un mec qui est très beau, il a pas besoin de ça. Il a pas besoin d'aller violer des filles, alors qu'il a déjà toutes les filles à ses pieds, tu vois. Tous ces trucs-là, en fait, c'est...
Oh non, mais c'est clair.
Et là, tu vois, je vais encore partir dans les chiffres qui font mal, mais ils m'ont mis par terre quand je les ai découverts. Et en fait, il y a 4 Français sur 10 qui pensent que si la victime a flirté ou a une attitude provocante, le violeur a des circonstances atténuantes. Et récemment, donc ça fait polémique sur Instagram, j'ai vu beaucoup de passer là-dessus, on nous a tranquillement appris que 20% des Français pensent que si on peut deviner un téton, c'est aussi une circonstance atténuante pour le violeur. Donc la culture du viol, en fait, c'est ça. C'est penser que des vêtements, une consommation ou un abus de substance, des tétons, c'est des invitations au viol.
Mais c'est ça. Et d'ailleurs, les vêtements, on sait que ça compte absolument pas. Les violeurs, en fait, ils cherchent pas l'aguichement, ils cherchent la vulnérabilité. Et d'ailleurs, il y avait eu une expo à Berlin, je crois, où les vêtements des victimes avaient été exposés pour montrer qu'ils étaient bien loin de l'idée générale qu'on se fait de l'accoutrement de la victime, tu vois. Et c'était vraiment très intéressant. Et c'est très glauque aussi, je pense que j'aurais pas été, mais c'est intéressant, c'est militant.
Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est militant, mais les seules personnes qui ont été voir, c'est des personnes qui sont concernées. Je doute que les mecs qui disent ça, ou les meufs aussi, parce que ça arrive, qui disent ça, se rendent compte et aillent dans ce genre d'exposition pour se dire « Ah merde, j'ai tort ».
tu pièges ton pote, tu sais, en mode... Tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois ? Non, mais on va avoir une expo sympa, t'inquiète.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, bonne idée, ça.
Et pareil, pour les femmes d'origine africaine ou arabe, qui sont hyper sexualisées, et ça empêche, encore une fois, encore plus de porter plainte, parce que dans l'imaginaire, elles le cherchent, tu vois, ou elles sont toujours dans la demande de ça. Enfin, je sais pas, c'est...
Ouais, c'est ça.
Je m'en tirais pas les cheveux.
Et moi, j'ai vu une illustration de Quentin Zution, sur Instagram, et qui dit qu'on culpabilise en fait systématiquement les filles, et ça dès très jeunes, à coup de « ne rentre pas trop tard, ne t'habille pas trop court, méfie-toi des garçons, traîne pas dehors ». Ah ouais, je suis sûre que en fait, enfin tu vois, vraiment, je pense que avec toutes mes comparses, on a déjà entendu ça au moins une fois. Mmh. À l'inverse, combien de fois est-ce qu'on a entendu dire à des mecs, alors si tu sors, laisse les filles tranquilles, ah non, un non c'est un non, tu vas pas pouvoir, tu n'as pas de pouvoir sur elles, respecte-les. Et là pour moi vraiment on tient un truc, enfin tu vois, si la chute... Je pense que la chute de la culture du viol, elle doit passer par l'éducation des garçons dès qu'ils sont petits. Si on leur dit que non, on ne soulève pas la jupe des filles pour s'amuser, non, draguer, c'est pas embêter, dégrafer des soutifs, c'est non, peut-être qu'on sera toutes et tous plus sereins, en fait, quand on va dans la rue, quand on va en soirée.
Mais c'est ça. Mais dès le plus jeune âge, en fait, dans les histoires qu'on raconte, le masculin, il va de soi. C'est comme ce qu'on disait sur, dans les injonctions à la beauté.
Ouais.
Alors qu'il faut... représenter le féminin pour qu'il existe, en fait. Le féminin, il est surreprésenté avec du maquillage, des bijoux. Il y a plus d'attributs de genre, tandis que le masculin, il est plus travaillé et plus profond. Et sans s'en rendre compte, l'entourage des enfants encourage les garçons à s'amuser, à prendre des risques, alors que les filles, il faut qu'elles fassent attention. Et même quand on échange, quand on a des conversations, il n'y a aucun problème quand un garçon coupe la parole, mais quand c'est une fille, on lui demande d'attendre son tour. Ça, c'est des études, hein. C'est pas des choses qu'on dit au pif, hein. C'est vraiment des choses que des chercheurs ont fait des études dessus. Et tous ces comportements, en fait, font qu'on habitue les femmes à la frustration, à faire plaisir, à aider, et en fait, les hommes à être satisfaits et avoir une tolérance très basse à la frustration, tu vois. Et ça, ça a des répercussions dans toute la vie ensuite, forcément, parce que c'est du conditionnement.
Ah oui, non, mais c'est ça, pour moi, la culture du viol, il faut la voir comme un continuum. Qui part de toute cette petite éducation, de tous ces trucs qui font que, eh ben, comme tu disais, les hommes ne sont pas habitués à la frustration et ont ce sentiment d'avoir besoin d'être satisfaits tout de suite, et qui amène au viol. Enfin, tu vois, vraiment sur une ligne de la violence qui a plusieurs échelons. Et en fait, il faut faire tomber cette ligne-là. Enfin bref, là, je crois qu'il va falloir que j'y aille, on n'a plus trop le temps.
Ouais.
Mais je veux qu'on en reparle, ça. On se rappelle bientôt et on continue, parce que moi, je voulais te parler aussi du fait qu'on on nie souvent et on minimise les faits, en fait.
Ouais, carrément. Bah, on en reparle la prochaine fois, alors.
Ouais, cool. Et bah, à bientôt et on se redit pour la prochaine fois.
Ouais.
Salut.
À toutes.